Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une d'Europe Midi, évidemment, la journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. On ira à Valenciennes, on ira à Marseille, on ira à Toulouse, à Paris, à Bordeaux pour voir s'il y a plus ou moins de monde que lors de la dernière manifestation, journée de manifestation le 19 janvier dernier. Car c'est là le vrai sujet. La mobilisation s'amplifie-t-elle ou perd-elle de la vitesse? On sera également avec le député RN Thomas Ménager, avec le député Renaissance Paul Midi et avec vous au 39-21. Vous appelez pour donner votre avis. Cette réforme des retraites, faut-il la faire ou pas? Vous appelez le 39-21. Le ministère de l'Intérieur choisit ce mardi 31 janvier jour de grève pour publier les mauvais chiffres de la délinquance. Tous les indicateurs sont au rouge ou presque. David Montagnier nous détaillera tout cela. J'ai un test Covid positif, je ne viens pas travailler. C'est fini, vous n'entendrez plus cette phrase à partir de demain. On va abandonner la plupart des mesures anti-Covid, nous dira Yasmina Katou. Les médecins en ont marre des patients qui prennent rendez-vous et ne viennent pas. Certains médecins veulent faire payer les consultations en avance, comme dans certains restaurants. On va en parler avec le docteur Jérôme Marty à 12h45 et avec vous au 39-21. La tendance météo, Anissa Haddadi, avec du gris encore pour ce dernier jour du mois de janvier.
Oui, bah finalement, pour le dernier jour du mois, on garde la même tendance qu'on a connue une grande partie de ce mois de janvier. Du gris, des nuages qui dominent, des brouillards présents ce matin qui resteront tenaces par endroits. Et puis toujours ce très beau temps entre les Alpes et la Méditerranée. Là, ça va durer toute la semaine. Grand soleil avec du Mistral et de la Tramontane.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Les opposants à la réforme des retraites vont-ils réussir un deuxième coup de force? Après le succès de la première journée de mobilisation, le 19 janvier dernier, c'est une nouvelle journée de grève et de manifestation aujourd'hui. Plus de 250 cortèges partout dans le pays. Certains se sont déjà élancés, comme à Valenciennes, dans le Nord, où l'on vous retrouve, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Le 19 janvier dernier, il y avait environ 6500 manifestants dans cette ville d'un peu plus de 40 000 habitants. Est-ce que l'affluence est toujours au rendez-vous aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, si l'on en croit les représentants syndicaux, la mobilisation est au moins aussi importante que le 19 janvier dernier. Une place d'armes ici à Valenciennes, noire de monde, dès 10h ce matin. Des centaines de drapeaux d'organisations syndicales, des sonos, des banderoles, mais aussi de simples pancartes, de cartons, de nombreux manifestants anonymes, si je puis dire. En tout cas, un vrai mouvement de fond contre cette réforme, selon Marc Lambert du syndicat Sud Solidaire.
Il y a toutes les organisations syndicales, il y a des non-syndiqués, il y a des citoyens, c'est vraiment un mouvement populaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation. Alors effectivement, nous syndicalistes, ça nous fait plaisir, mais c'est qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de colère, et les gens, ils en ont marre aujourd'hui, ils veulent dire stop, quoi. C'est l'attaque de trop en fait.
Une colère accentuée, disent aussi les manifestants, parce qu'ils considèrent comme des provocations du gouvernement, à l'image de David, qui lui n'a toujours pas digéré les déclarations de Gérald Darmanin.
Franchement, à un moment, il faut peut-être arrêter. Nous, on veut bordéliser. Et ce monsieur-là, il ose dire à la télé, il ose dire devant tout le monde, les gens ne veulent pas travailler, mais qui viennent m'apprendre ce que c'est que le travail. Il sait ce que j'ai fait, moi, dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail, ce mec?
Alors, beaucoup de manifestants de Valenciennes iront grossir les rangs de la manifestation régionale cet après-midi à Lille. Lille où près de 20 000 personnes avaient manifesté le 19 janvier dernier. On verra si, là aussi, la mobilisation est au rendez-vous.
Lionel Gougelot, en direct de la manifestation de Valenciennes pour Europe 1. Merci beaucoup, Lionel. Les habitants des villes moyennes font entendre leur voix, ceux qui sont contre cette réforme des retraites, évidemment. Mais là où les cortèges sont les plus fournis, c'est évidemment dans les grandes agglomérations. À Paris, les manifestants ont rendez-vous à 14h, départ de la manifestation aux alentours de 14h30. À Marseille, un rassemblement a débuté sur le Vieux-Port, il y a environ 1h30. Stéphane Burgat avec nous, bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 à Marseille, vous avez suivi la manifestation du 19 janvier dernier. Il y a autant de monde ou pas?
Écoutez, à première vue, on reste sur les mêmes standards. On rappelle les estimations du premier round entre 26 000 et 140 000 personnes. Pour ce qui est des points de comparaison, et là, le lieu de rassemblement, l'itinéraire sont différents. Aujourd'hui, le cortège, en tout cas, qui remonte là les quais du Vieux-Port pour longer la rade dans un brouillard de fumigène et des détonations de pétards, du monde à perte de vue, encore une fois. Alors, s'il est trop tôt pour obtenir les différentes estimations, peut-être une indication, les syndicats ont affrété 50% de bus en plus pour ce deuxième round. Un mouvement qui est particulièrement suivi ici à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit dans les raffineries, les cantines scolaires, les transports en commun, et les représentants de l'intersyndicale en tête de cortège à l'instant appellent bien leurs centrales respectives à intensifier le mouvement avec des actions. Coup de poing, selon eux, ces grands rendez-vous dans la rue ne suffiront pas.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Direction Toulouse maintenant. Benjamin Péter avec nous. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
La manifestation a déjà commencé à Toulouse. Là aussi, les rues sont plutôt bien remplies.
Oui, oui, énormément de monde ici aussi. Je me suis mis sur le côté tout à l'heure pour mieux visualiser finalement la taille du cortège. J'ai vu passer des gens pendant, une heure et quart, je pense, entre la tête du cortège et la queue. La manifestation qui s'étend sur les deux tiers du parcours prévu sur les grands boulevards. Le 19 janvier, il y avait entre 30 et 50 000 personnes qui étaient dans les rues et on pourrait bien les dépasser. Alors j'ai vu des salariés du public, des profs, mais comme il y a 10 jours, il y a énormément de salariés du privé, notamment des salariés de l'aéronautique, très présentes forcément ici. Vous savez que leur syndicat, notamment Airbus, affrète des dizaines de bus pour les amener ici. Et puis ce qui est nouveau, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup plus que lors de la première manifestation, des lycéens, des étudiants, même des familles. La maîtresse n'était pas là, alors on s'est dit, on vient tous ensemble à la manif. Et puis des gens qui sont peut-être motivés finalement grâce à la météo qui est beaucoup plus clémente aujourd'hui que le 19 janvier, et rassurée peut-être aussi parce que la manifestation s'était déroulée dans le plus grand calme et qu'aujourd'hui aussi, pour le moment, tout se passe très bien.
Merci Benjamin. Benjamin Péter en direct de Toulouse. 26,6% d'enseignants grévistes dans le primaire, nous indique le ministère de l'Éducation nationale, 25% dans le secondaire. En clair, un prof sur quatre grévistes dans le primaire et dans le secondaire, selon le ministère de l'Éducation nationale, un peu plus selon les syndicats, bien sûr. La mobilisation contre cette réforme des retraites se traduit également par des grèves et des actions coup de poing. C'est le cas dans les raffineries et les dépôts de carburant, où la CGT Total Énergie compte 75 à 100% de salariés en grève. Dans les centrales électriques, des agents EDF ont procédé à des baisses de production d'électricité. Il y a l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires en moins sur le réseau ce matin. Les perturbations les plus visibles, elles sont dans les transports en commun. En région parisienne, le trafic des trains et des métros est très fortement perturbé. Plusieurs lignes sont même complètement fermées. Guillaume Dominguez avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes dans l'une des gares les plus importantes de Paris, de la capitale, la gare Saint-Lazare. C'est très calme en cette mi-journée.
Oui, les voyageurs ont tout simplement fui les gares aujourd'hui. Il faut comprendre qu'en moyenne, un seul train sur quatre est maintenu, ce qui occasionne d'importants retards. Chiara, par exemple, a terminé sa journée et devrait déjà être chez elle.
Dès que le chantier est fini, on peut rentrer. Sauf que au lieu d'être limite dans le train et d'être quasi arrivé chez moi, j'attends une demi-heure à la gare. Je prends mon mal en patience, puis je me dis que c'est le jeu. Je comprends, les gens, s'ils font la grève, c'est pas pour rien, je pense. Je vais prendre un bon bouquin et puis voilà, c'est tout.
Voilà, des annulations qui concernent également les grandes lignes. Gaëtan, par exemple, est arrivé de Lyon tôt ce matin et doit rentrer sur Amiens. Problème, son train est annulé.
On est arrivé vers 6h sur Paris et du coup, je peux prendre un train seulement à 17h40. J'en avais un à 9h et un à 8h, ils ont tous les deux été supprimés. Il y en a d'autres avant, mais c'est pas le même prix. Et je dois faire des détours à Lille, à Arras, etc. Donc le seul train direct que j'ai au même prix, c'était à 17h.
Près de 10 heures de retard donc, mais le jeune homme relativise. Je comprends la grève et je préfère perdre une journée que travailler 2 ans de plus, m'a-t-il dit.
Merci beaucoup Guillaume Dominguez en direct depuis la gare Saint-Lazare, quasi vide. La gare Saint-Lazare à Paris, quasi vide. Restez bien avec nous, bien sûr, dans Europe Midi. On va continuer à parler de cette réforme des retraites. Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, sera avec nous dans ce studio. Thomas Ménager également, député RN du Loiret et rapporteur du dossier des retraites pour le RN. Et avec vous, bien sûr, au 39-21. Alors que la grogne s'exprime à nouveau dans les rues, Emmanuel Macron décide de prendre de la distance. Comme le 19 janvier dernier, il consacre sa journée aux questions internationales. Le président de la République reçoit le ministre ukrainien de la Défense en fin de journée. Une rencontre qui a lieu au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron sur d'éventuelles livraisons d'avions de chasse à l'armée ukrainienne. Le président de la République a assuré qu'il n'excluait rien par principe.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi 9. Le ministère de l'Intérieur a choisi cette journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites pour publier ce matin son bilan de la délinquance en 2022. Bonjour David Montagnier.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les chiffres ne sont pas très bons. C'est un comparatif très détaillé entre les chiffres de 2021 et ceux de l'an passé. Le résultat est même édifiant, vous nous dites. Quand je dis pas très bon, je suis gentil. Ce sont presque tous les crimes et délits qui ont augmenté, David. Hein.
Oui, on peut le dire, les chiffres sont mauvais sur les violences aux personnes. Tout d'abord, le nombre de victimes de coups et blessures augmente fortement, plus 15%, après déjà une augmentation en 2021. Hausse également pour les victimes de violences intrafamiliales, c'est plus 17%. Les atteintes aux biens ne sont pas non plus épargnées par cette tendance. C'est le cas des cambriolages avec plus 11% et les vols de véhicules avec plus 9%. Mais pour l'entourage de Gérald Darmanin, pas d'affolement. Ces mauvais chiffres sont le reflet d'un retour à la normale après des baisses marquées ces dernières années par l'épidémie de Covid. En matière de stupéfiants, l'action de la police est restée soutenue. Plus 13% d'arrestations pour usage de drogue. Enfin, à noter quelques maigres motifs de satisfaction pour le gouvernement. La baisse des vols violents sans armes, moins de 4% l'année dernière. En 10 ans, le nombre de faits a été divisé par deux. L'entourage du ministre s'en félicite. Ce sont pour lui des faits traumatisants et qui contribuent le plus au sentiment d'insécurité.
David Montagnier, merci beaucoup David. Pas d'affolement, disent les proches du ministre.
C'est les nuances qui sont apportées en effet au terme de l'entourage ce matin du ministre après la communication de ces chiffres pour l'année 2022.
David Montagnier, service police-justice d'Europe 1. Merci beaucoup David. C'est toute la Corse qui attendait cette décision de la Cour d'appel de Paris. L'un des deux derniers membres du commando Erignac, reconnu coupable de l'assassinat du préfet Erignac en 98, l'un des deux a vu sa demande d'aménagement de peine accordée. Pierre Alessandri sera placé dès le 13 février prochain en semi-liberté probatoire après 24 ans d'incarcération. Frédéric Michel est avec nous. Frédéric, bonjour Frédéric.
Bonjour.
Pour beaucoup en Corse, cet aménagement de peine était une condition pour ouvrir tout dialogue avec le gouvernement sur le statut de l'île. Hein.
Oui, et cette décision qui n'est pas susceptible d'appel, cette décision, c'est l'application stricte du droit. Par trois fois, Pierre Alessandri avait obtenu cette mesure de liberté conditionnelle devant le tribunal d'application des peines. Mais à chaque fois, le parquet antiterroriste avait fait appel après près d'un quart de siècle passé derrière les barreaux. Et parce que Pierre Alessandri justifie d'un emploi, il travaillera dans le domaine des espaces verts. Il pourra donc sortir de prison la semaine. Un soulagement pour son avocat maître Eric Barbolosi.
Il rentrera dormir en prison le soir pendant un an et après il sera sous libération conditionnelle avec des contraintes mais libre. C'est un grand soulagement parce que ça ouvre beaucoup de perspectives de reprise de relations sereines et apaisées entre la Corse et l'État 25 ans après l'assassinat du préfet Erignac.
Au printemps dernier, après la mort d'Yvan Colonna et pour apaiser la colère, le gouvernement avait enclenché un processus avec les élus de l'île. Mais depuis plusieurs mois, il était au point mort. Pierre-Marie Mourachol est le représentant d'un des syndicats étudiants corse qui s'est fortement mobilisé.
Il y a un soulagement. Après, il y a toujours une colère qui est là. Mais c'est un premier pas vers peut-être une relation plus apaisée avec l'État. Si aujourd'hui, on veut tourner la page des années de violence, cela passe également et surtout par la libération de tous les prisonniers politiques, si ce n'est de l'amnistie.
Et on attend maintenant la réaction des élus nationalistes corses.
Frédéric Michel, en direct de Corté. Merci beaucoup Frédéric. Et on saura le 23 février la réponse de la justice à la demande d'aménagement de peine d'Alain Ferrandi, autre membre du commando Erignac. Je vous rappelle que l'auteur de l'assassinat du préfet Yvan Colonna a été tué par un co-détenu en prison l'an dernier. L'inflation repart à la hausse au mois de janvier, plus 6% d'inflation sur un an. Dans le détail, ce sont les prix des produits alimentaires et de l'énergie qui ont le plus augmenté, des hausses de 13 à 16%. Et malgré les nombreuses difficultés que connaît l'économie française en ce moment, la croissance l'année dernière est restée à un niveau acceptable, on va dire. Bon, plus 2,6%, c'est ce qu'annonce l'INSEE ce matin, plus 2,6%. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, salue, je cite, « les capacités de résistance exceptionnelles des entreprises et des salariés français ». Changement majeur dans la stratégie de lutte anti-Covid en France, je voulais qu'on en parle. Dès demain, les règles mises en place depuis le début de la pandémie pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid, ces règles seront presque toutes abrogées. Il faut dire que la situation s'est largement améliorée. On compte aujourd'hui 5 000 cas en moyenne par jour, on est monté jusqu'à 500 000. il y a encore un an. Yasmina Katou est avec nous, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Qu'est-ce qui va changer concrètement ?
Eh bien, c'est la fin de la stratégie tester, tracer, isoler. L'isolement de 5 jours après un test positif ne sera plus requis. Les personnes positives ne recevront plus le fameux message de l'assurance maladie pour être informées de la bonne conduite à tenir pour éviter de propager le Covid. Les nouvelles mesures concernent aussi les cas contacts qui n'auront plus l'obligation de se faire tester 2 jours après avoir croisé la personne contaminée. C'est aussi la fin du fichier contact Covid de l'assurance maladie. Il permettait jusqu'alors d'identifier les cas positifs et leurs cas contacts. Vous n'aurez donc plus à déclarer vos cas contacts, mais les autorités comptent sur la responsabilité de chacun pour avertir toute personne vue 48 heures avant de tomber malade. Enfin, alors que l'on pouvait obtenir un arrêt maladie en quelques clics sur le site Amélie après avoir été testé positif, il faudra désormais passer par une consultation chez le médecin pour être arrêté.
Yasmina Katou, merci Yasmina. Il est midi et quart, la bourse, avec vous Didier Hameau de boursier.com. Bonjour Didier.
Bonjour Robin.
Qu'est-ce que ça donne à Paris la bourse ?
Ça baisse un petit peu, moins 0,7%, 7030 points, on reste quand même au-dessus des 7000 points. Après un début d'année en nette hausse hein, de l'ordre de 9%, le marché s'est mis dans l'attente des réunions des banques centrales, en particulier celle de la Réserve fédérale. Demain, aux États-Unis, la Fed qui devrait remonter ses taux directeurs de 0,25%. Jeudi, ce sera le tour de la Banque Centrale Européenne qui devrait aussi relever de nouveau ses taux directeurs pour mieux maîtriser l'inflation. Vous en parliez à l'instant, on est à 6% en France. Ailleurs, donc, la prudence l'emporte globalement en Europe. Francfort perd 0,7%, Bruxelles moins 0,6%, Amsterdam moins 0,8%. Le CAC 40 en baisse de 0,7%, 7030 points.
Didier Hameau de boursier.com, merci beaucoup Didier. La météo à présent avec vous Anissa Haddadi, avec un ciel encore toujours très nuageux. Hein.
Oui, depuis ce matin, nous avons un plafond gris hein, au-dessus de la tête sur la plupart des régions. Alors les brouillards qui étaient très présents ce matin sur la moitié nord restent tenaces entre l'Auvergne et le nord-est, hein, principalement entre l'Alsace, le Val-de-Saône, le Nivernais. Là, on a encore quelques brouillards tenaces. Ça se couvre au nord de la Seine cet après-midi. Les nuages restent très présents entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, le Limousin, le Midi-Pyrénées, où là, on aura même quelques averses et c'est toujours très agréable entre les Alpes et la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 90 km/h. Les températures, ça se radoucit légèrement, avec 5 degrés à Aurillac, 7 à Colmar et Clermont-Ferrand, 9 degrés pour Paris, Toulouse et La Rochelle, 11 à Cherbourg et à Brest, 13 degrés à Nîmes et 15 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa, il est midi 17, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi, on va parler de la réforme des retraites, bien sûr. Avec vous au 39-21, avec Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, qui défend le projet de réforme des retraites. Bonjour Paul Midi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et avec Thomas Ménager, député RN du Loiret, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale et rapporteur du texte retraite au RN. Bonjour Thomas Ménager.
Bonjour.
Et vous luttez hein, contre ce projet.
Je vous le confirme.
De réforme des retraites. Et on sera également, tiens, il y a déjà des appels, hein, on sera avec François, 68 ans, ingénieur en région parisienne, nous dira ce qu'il pense de cette réforme. À tout de suite.